Bonsoir, je m'appelle Sylvie de Boisvilliers. Je suis une enfant d'Île de la Creuse. Donc en 1964, il y a eu des enfants qui ont été exilés en métropole, donc j'en fais partie. J'avais alors 12 ans quand je suis venue en métropole. À l'âge de 8 ans, mes parents, ma maman, est rentrée le soir, elle a trouvé sa fille à la maison. Donc j'ai été enlevée, j'ai été placée dans un foyer. Je suis restée dans ce foyer pendant 3 ans. Et à l'âge de 12 ans, on m'a envoyée avec d'autres enfants en métropole. Donc j'ai atterri, moi, parce que c'était les enfants de la Creuse, moi j'ai atterri à Saint-Sulpice-Laurière. Et donc, du jour au lendemain, de l'été, on est passé à l'hiver, c'était en septembre 69. Donc, la première fois que j'ai vu la neige de ma vie, j'ai eu 47 dixièmes de température. J'étais dans le coma. C'est ma gardienne chez qui j'étais qui est venue me réveiller le matin et ne me voyant pas descendre de ma chambre, elle s'est inquiétée. Donc, le docteur est venu et voilà, j'étais dans le coma. Et après, le lendemain, j'étais très bien, je me roulais dans la neige, mais c'était la première fois que je la voyais, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Suite à ça, il y a l'interrogation en allant à l'école que c'est plus du tout les mêmes petits copains ni copines. Les parents qu'on ne reverra plus parce qu'on est quand même à 13 000 km. À l'âge de 12 ans, on ne se pose pas tout à fait les questions que je vous parle ce soir, mais les nuits sont longues et les nuits, j'ai beaucoup passé de nuits à pleurer. Et sans avoir les réponses pour le lendemain. Donc j'ai fait ma petite vie de jeune adolescente qui allait à l'école et qui le soir avait servi de boniche dans la famille d'accueil chez qui j'étais, malgré que je n'étais pas la moins bien logée parce que j'avais un lit pour dormir, alors que d'autres de mes compatriotes dormaient à la paille avec les moutons. Et même m'ont dit qu'ils avaient mangé des crottes de moutons. On leur disait que c'était de la réglisse française. Voilà pour l'astuce de la réglisse. Les amis en question m'ont aussi dit que souvent, les gens qui leur avaient dit que c'était de la réglisse, eh bien, ils leur en avaient fait manger aussi parce qu'ils en avaient mis dans leur soupe. Donc la petite vengeance. Bref. Donc des enfants qui arrivent à l'âge de 12 ans en métropole dans un pays où je ne parlais pas le français vraiment. À l'époque, l'argent n'était pas du tout c'était le franc chez nous, le CFA. À l'école, on m'appelait la négresse. Donc tout ça, oui, tout ça, ce sont des petits souvenirs d'enfance qui, sur le coup, ne vous marquent pas, mais après, on grandit et on garde. Ensuite, j'ai été placée dans un foyer parce que, avec ma gardienne, ça n'allait pas trop bien. J'avais un petit peu la tête rebelle. Donc, avec lui, le tonton, ça allait bien, mais la petite, ça n'allait pas trop. Donc, j'ai été placée dans un foyer où là, j'ai retrouvé des copines qui avaient été au foyer avec moi lorsque j'étais à l'île de la Réunion. Donc, les souvenirs sont un peu plus remontés par rapport à cette enfance. Et là aussi, les interrogations et peut-être plus de réponses avec les copines où on avait plus ou moins les unes et les autres fait notre vie d'adolescente et compris certaines choses qu'on nous avait finalement enlevées pour repeupler la Creuse. J'avais moi 12 ans, il y en avait d'autres qui avaient 6-7 ans, des enfants même, des bébés. On nous avait changé, certaines personnes, on a changé son nom. Moi, on m'a enlevé ma particule parce que j'en avais une. On m'a dit pourquoi toi t'en as et moi j'en ai pas. Mais à l'âge de 12 ans, on s'en fiche un peu, tout ça, on sait même pas de quoi on parle. Hein. Surtout, bref. Mais c'est vrai que c'est un problème qui m'a suivi après toute ma vie, cette particule. Parce que mon acte de naissance, c'était avec deux Boisvilliers et après, ça a été Boisvilliers. Donc on me demandait souvent d'apporter une réponse que je n'avais pas moi-même. Bref, ensuite donc j'allais à l'école, dans cette nouvelle vie avec le foyer. J'ai appris un métier, je suis dans le domaine de la couture. Et donc j'en ai fait mon métier et j'ai continué ma vie
d'adolescente, toujours avec des questions sans réponse. Après, ben, je me suis mariée. Ça n'a pas bien marché. Quand on ne sait pas d'où on vient et qu'on ne sait pas où on va, donc à mon avis, on n'a pas les repères qu'il faut pour n'avoir pas de famille, donc on ne doit pas avoir les bonnes ondes qui nous aident. Bref, un divorce. Ensuite, j'ai travaillé. Et bon, mon premier salaire, c'était 73 francs. À 18 ans, c'était bien pour moi, ça me faisait un petit peu de chou. Et j'étais un petit peu dans le, comment dire, l'insouciance, c'est vrai. Mais malgré tout, les choses de la vie, bon, ben, vous ramènent à la surface. Et en même temps, ça, toutes ces épreuves-là, ça m'a permis aussi de petit à petit me construire par moi-même. Sans repère, certes, mais avec les miens. Et je me suis... Donc après, j'ai travaillé longtemps, seule. Après, je me suis remariée, j'ai eu un fils. Mon mari était CRS, il était souvent parti. Et moi, j'étais la maman au foyer qui travaillait, qui élevait son enfant. Malheureusement, ça s'est terminé aussi par un divorce. Voilà. J'ai gardé mon fils. Ensuite, je me suis installée à mon compte professionnel. J'ai travaillé, galéré, beaucoup galéré. Et mon fils a fini par partir vivre chez son père. Il est vrai que j'étais très prise par mon travail. Et l'année où j'ai repris mon fils est décédé. Donc là, ça a été la catastrophe de ma vie. Pire que celle d'avoir perdu mes parents. Ma vie s'est arrêtée là. Et... excusez-moi. Mon fils est décédé. J'étais avec un ami qui, lui, m'a beaucoup aidé à maintenir ce cap. Et ça fait 22 ans donc que je suis avec cette amie. Aujourd'hui, je suis en instance de divorce avec cette amie qui est devenue mon mari et qui lui a un cancer. Voilà les épreuves de ma vie. Alors, quand nos enfants de la Creuse, j'ai vécu toutes ces épreuves, mais aussi ces épreuves m'ont aidé à grandir et à me construire moralement, mentalement. Entre-temps, j'ai créé une association, la transmission des savoirs. Donc, je transmets mon savoir dans la couture à des jeunes et des moins jeunes. Je suis attenante, j'ai un atelier de couture qui marche très bien, me semble, une association. Et malheureusement, les enfants de la Creuse se sont souvent manifestés auprès des ministères, et moi y compris, et on n'a jamais eu vraiment d'écoute. On s'est plus servi de nous pour faire avancer des personnes qui sont arrivées politiquement. Ça, on s'en est très vite aperçu. Et depuis 2014, que la résolution par rapport aux enfants de la Creuse a été obtenue par Madame la ministre Erika Barej, il n'y a eu aucune évolution. La seule chose de positive qu'on a pu obtenir, ça a été un billet d'avion pour les enfants qui voulaient retourner dans leur île. Alors que lorsqu'on nous a déportés, on était... normalement, on devait avoir un billet d'avion tous les ans pour retourner voir notre famille. Et ces billets d'avion-là, nous n'étions pas au courant, bien sûr. Mais personne ne l'a demandé. Et quand nous avons voulu manifester le besoin de retourner dans notre île, ça a été un billet d'avion par an pour une personne, alors que notre île était construite. Il y a des personnes qui avaient des enfants, la famille, donc on ne peut pas retourner dans son île toute seule, regarder son île, revoir son île, revenir, retrouver sa famille et parler de son île. Ce n'était pas acceptable. Donc beaucoup ont demandé à ce que la famille complète ait un billet d'avion pour au moins découvrir l'île du parent qui a été exilé. Et là, bien sûr, il y a une barrière qui s'est levée et on est encore en discussion, on va dire. On n'a toujours pas la réponse. D'autres personnes ont reçu des billets d'avion pour y retourner définitivement. Et nous sommes tous encore à demander réparation de ce préjudice moral que nous avons subi. Et là, il n'y a plus personne au bout du fil. Voilà, quand il s'agit de parler d'argent, on n'a droit à rien. Après, c'est pas ce qui va m'aider à dire « j'ai été malheureuse dans mon enfance », mais peut-être atténuer les besoins financiers qu'on peut rencontrer dans sa vie active. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont des crédits. Autour de moi, j'en ai connu beaucoup qui avaient des crédits, qui n'arrivaient pas à payer les crédits, et on leur proposait un billet d'avion. Mais au retour, il y avait toujours le crédit qui était là, et puis les enfants à nourrir. Donc ça a été aussi un frein pour un départ, on va dire, de vacances, retourner chez soi, retrouver son île. Donc beaucoup ont refusé aussi ce billet d'avion. Alors, quoi dire? Moi je dirais que c'est un scandale d'État où il n'y aura jamais réparation. Voilà. Si quelqu'un a des questions.
Quel était le rôle de vos parents respectifs dans cette réparation?
Mes parents n'étaient pas au courant que j'avais quitté La Réunion. C'est un voisin, dans mon histoire à moi, c'est un voisin qui a signé un papier que l'assistante sociale est venue présenter pour m'enlever. Comme ma maman était au travail, ils étaient en instance de divorce avec mes parents, donc c'est maman qui avait ma garde. Et le soir, quand elle est rentrée, ma mère est rentrée, elle n'avait plus sa fille à la maison. Ma mère a fini, elle est décédée depuis très très longtemps, dans un asile psychiatrique. Et c'est le voisin qui lui a dit que l'assistante sociale était venue m'enlever et que c'est lui qui avait signé. Mais ça, je l'ai su bien bien plus tard.
Sur quel droit?
Malheureusement, je ne le saurais vous dire, monsieur. L'État.
Il y avait une indemnisation, madame, une compensation qui était versée aux familles, aux EHPAD?
Moi, personnellement, je n'ai pas eu connaissance que des parents ont reçu de l'argent pour les départs des enfants. Par contre, il y a eu beaucoup de films, de reportages télévision qui étaient faits, où ils disaient que certaines personnes qui ne savaient pas ce qu'ils signaient, parce que beaucoup étaient malheureusement illettrés, ne savaient pas ce qu'ils signaient, ont signé un départ avec très peu d'argent à la clé. Mais ma mère ne savait même pas que j'étais partie. Que j'allais partir. Et lorsque j'ai atterri dans le foyer, parce qu'avant de venir en métropole, je suis restée 3 ans dans le foyer, mon père est venu me voir au foyer, mais comme ils étaient divorcés et que c'est ma mère qui avait la garde, il n'a pas pu faire les démarches entre-temps, et c'est pour ça qu'on m'a envoyé en métropole. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que je suis arrivée en métropole chez des gens qui ont été plus ou moins, on va dire, gentils, mais je n'avais aucun lien affectif. Une accolade, jamais j'ai eu ça, une bise non plus. Mais ce que j'ai pas compris de l'État, c'est que j'ai un courrier où on me demande, 2 ans après que je sois arrivée en métropole chez des gens chez qui j'étais placée et qui étaient rémunérés, on demande la situation financière de mes parents pour voir si mes parents peuvent subvenir à mes besoins en métropole. Ça, c'est fort de café, hein. Et là, je m'interroge, pourquoi ne pas avoir donné cet argent, puisque ces personnes étaient payées pour me nourrir, pourquoi ne pas avoir donné cet argent à ma mère qui allait travailler, puisqu'elle était seule à me garder, j'étais enfant, j'étais jeune. Donc, pourquoi ne pas lui avoir donné ça en tant qu'allocation, je ne sais comment, mais plutôt que de donner à ces personnes qui m'ont élevée, avec aucun brin d'amour, où je faisais la boniche, donc j'étais venue là pour faire de la main-d'œuvre gratuite. Comme tant d'autres. Et tant d'autres sont allés dans les champs, tant d'autres ont mangé du caca de brebis, et tant d'autres ont été violés. Moi, ça n'a pas été mon cas, merci mon Dieu. Mais cette souffrance-là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas la réponse. Mais on nous l'a donnée. Et c'est ça qu'on demande en réparation. C'est que cette souffrance soit reconnue déjà. Oui, mais les associations, malheureusement, donc il y a été monté une association, la fédération a été montée. En fait, une fédération, ça se monte avec 3 associations. Et donc, il y avait à la tête une manipulation avant qu'Erika Barrett soit devenue première ministre, ministre, pardon, des Outre-mer. Avant qu'elle soit. On a monté cette fédération pour que toutes les choses qui soient décidées passent par cette fédération. Et ça venait tout du ministère. Et les personnes qui étaient contre les choses, qui avaient des questions un peu trop dérangeantes, eh bien, on nous a éliminés. Nous étions 7 personnes d'avoir monté un collectif et nous n'étions jamais entendus. Donc il y avait une manipulation de l'État là qui est très claire, enfin, à mon regard à moi. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une fumisterie d'État là au niveau de M. Vidal, justement. Alors pourquoi avoir pris une commission, fait une commission avec des gens qui n'étaient pas intéressés? C'est-à-dire, ce n'était pas des membres des enfants de la Creuse qui a été. Il n'y avait aucune personne des membres des enfants de la Creuse qui ont fait partie de cette commission. Moi, je faisais partie du comité de soutien. À chaque fois qu'il y avait une réunion, et je tenais à y être, parce que quand on n'est pas présent dans une salle, on ne peut pas savoir ce qui se dit. Et quand on vous répond, oui, il a dit ça, suite à une réunion de 2 heures, on vous répond une phrase de 10 mots. Il y a un manque, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a un manque. Et quand j'allais donc au comité de soutien, on nous préparait presque les questions. Et quand on avait des questions qui étaient dérangeantes, on n'avait pas les vraies réponses. Et on devait nous rappeler après au téléphone. J'attends toujours le téléphone. Je suis encore en rapport avec certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont quand même une moralité différente, même si elles font partie du ministère. Et qui m'ont aidé aussi à comprendre beaucoup de choses. Mais M. Vital, en parenthèse, M. et Mme Paul-Langevin, je les connais aussi, j'ai mangé à leur table, mais c'est une magouille. Erika Barrett, elle a été ministre suite aux enfants de la Creuse, elle nous a donné des voyages, elle nous a payé parce qu'elles ont des subventions pour faire les choses, les actions, et elle nous a payé les voyages de Marseille pour monter jusqu'à Paris à chaque fois qu'il fallait avoir un déplacement, qu'il y avait quelqu'un d'important qui allait se déplacer pour remplir des salles. Et on parlait des enfants de la Creuse pendant une demi-heure sur 2 heures de... Alors, ça, j'appelle pas ça l'humanitaire, un scandale. Alors, de M. Vital, on s'est rencontrés plusieurs fois. Je pense pas qu'il ait voulu défendre les enfants de la Creuse. Quand on se permet de dire que j'ai encore le chéquier du ministère d'État et je voyage à l'œil, excusez-moi, mais ça, j'appelle pas ça faire de l'humanitaire. J'appelle pas ça aider les enfants de la Creuse. J'appelle ça profiter. Et maintenant, leur vie qu'ils ont là-bas, ce qu'ils font là-bas, c'est innommable. Entre Erika Barrett, Vital, Paul Langevin et je les ai tous les noms, hein. C'est innommable. Je suis révoltée.
Vous avez eu la même chose avec des enfants qu'on a fait venir du Cambodge et du Vietnam à l'époque des Boat People.
Excusez-moi, mais on veut repeupler la Creuse avec des enfants de 6-7 ans. Mais pourquoi ne pas avoir mené la famille pour repeupler la Creuse? Ils auraient très bien pu élever les vaches et faire les vaches pareil que les enfants ont fait. Hein. Je suis désolée. Il y a des enfants de 4-5 mois qui ont été pris. Ils ont été donnés. Enfin, il y a eu là. Comment on appelle ça? Oui, de toute façon, c'est une magouille, mais un enfant de 4-5 mois, c'était juste parce qu'il y avait des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et cet enfant-là arrivait dans le même avion, quoi, final. Alors, M. Debré, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec lui, croyez-moi, parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, on n'a jamais pu. Et pourtant, le collectif, on a même Collard et tout, on a essayé de les avoir. Déjà, on ne peut même pas avoir un avocat. Le collectif a fait des listes entières pour avoir un avocat qui veuille parler de notre histoire, défendre notre histoire. Ils sont tenus au secret, ils ne peuvent même pas nous défendre. Il y en a beaucoup quelques-uns qui sont revenus dans l'île, mais certains par leurs propres moyens, d'autres ont été aidés récemment. Beaucoup sont morts, malheureusement, et beaucoup végètent ici, d'autres se sont suicidés, et très peu ont pu faire leur résilience, et il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans des états catastrophiques. Parce que bien souvent, on n'ose même plus en parler, ils n'osent même pas nous parler. Même nous qui faisons partie de la fédération ou du collectif, ils ont du mal à parler de leur histoire. Et j'ai notamment un souvenir, une fois à une réunion au ministère avec Erika Barège, il y a un monsieur qui, dans la réunion, avait dit « Je voudrais savoir comment je peux faire pour élever mes enfants » et il a évoqué sa situation. Et là, personne n'a plus rien dit. La réunion suivante, je l'ai revue, je suis allée le voir et je lui ai demandé si quelqu'un avait intervenu. Personne n'a intervenu. Pourtant, Erika Barège avait dit à sa secrétaire, à une de ses secrétaires qui était là, « Prenez le nom du monsieur. » Mais jamais il a été contacté. C'est juste pour la presse, faire bonne figure. Ça, ils savent faire. Je peux vous assurer qu'ils savent faire. À toutes les réunions que j'ai assistées, ils savent faire quand il y a la presse.
Moi, il me semble que j'ai entendu le gouvernement, en 2014-2015, parler de faute. Est-ce qu'actuellement, les associations qui existent se regroupent pour parler, pour échanger, pour se réconforter, pour... voilà. Est-ce qu'il y a une action qui se fait avec ceux qui restent ici? Alors,
malheureusement, quand on dit diviser pour mieux régner, et bien là, le cas est là. Diviser pour mieux régner, il y a eu la FED qui a été montée par le gouvernement avec Erika Barège. Et le collectif dont je fais partie, Enfants 3D, où il y a vraiment la guerre. C'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose sur les réseaux sociaux qui dérange la FED, on est attaqué de suite. Mais ils ne veulent pas avoir la rencontre. On ne peut pas se rencontrer pour arriver à un résultat positif ou négatif, mais au moins discuter. On n'y arrive pas.
Bien, avant de passer la parole à Francis et Franck, qui accueillent des familles ukrainiennes, je crois qu'on va passer la parole à Mgr Rouet pour digérer quelque chose qui n'est quand même pas facile à digérer.
Bonsoir à vous. C'est toujours une joie de vous rencontrer. Merci de m'avoir invité. Et j'avoue que j'ai un peu mauvaise conscience de parler ce que je vais dire après le témoignage et l'exposé qu'on vient d'entendre.